aux questions. Il y a une première question sur la question du genre. Alors effectivement, j'ai relu mon introduction. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'écrirais plus pareil aujourd'hui. C'est un travail qui date de ma thèse et que j'ai publié il y a 2 ans, mais à partir d'un travail que j'avais fait entre-temps. Donc c'est sans doute aussi des questions que effectivement, m'interpellaient moi à l'époque. Il y a une distinction en cuisine, ce qui a été rappelé, entre cuisine domestique qui est de l'ordre effectivement du féminin, enfin c'est les femmes essentiellement qui pratiquent cette cuisine toujours aujourd'hui en France, et à l'inverse la cuisine professionnelle qui est davantage masculine. Et on retrouve ça, alors ça n'a pas été dit, mais il y a deux sous-populations dans ce que j'appelle journaliste gastronomique. Et c'est pour ça que parfois il y a des petites ambiguïtés dans le livre, parce que selon les chapitres, je ne parle pas exactement des mêmes journalistes. Le chapitre sur les blogueurs, je compare les blogueuses, qui sont à plus de 90% des femmes, à une population qui sont les journalistes qui écrivent des recettes de cuisine, et qui là aussi sont très massivement des femmes, et qui n'ont pas exactement le même profil social, le même parcours, la même trajectoire que les critiques de restaurants, qui eux sont majoritairement des hommes, mais il y a quand même un certain nombre, et en plus ça se féminise de plus en plus, mais où, disons, c'est un peu plus divers en termes de genre que la production des recettes qui est là très très féminine. Alors c'est compliqué de séparer ces deux populations parce qu'il y a plein de gens qui travaillent dans les deux, qui font un peu de chaque selon les circonstances, mais selon les moments, je ne prenais pas exactement la même base de comparaison. Donc sur les rapports aux évolutions plus larges de la société, effectivement, alors actuellement, mais j'ai pas refait l'étude, mais il y a une féminisation de la profession des journalistes gastronomiques, et de même dans le monde des chefs professionnels, il y a une féminisation aussi de la profession, et les deux semblent se porter quand même assez fortement mutuellement, c'est-à-dire que les journalistes femmes publient des livres autour des chefs femmes, et il y a quand même cette sensibilité aujourd'hui à cette question-là qui était auparavant complètement invisible, une invisibilité totale de ces questions. Donc ça va un peu de pair. Alors je ne sais pas, il faudrait étudier un peu plus précisément pour savoir dans quel sens les choses s'influencent. Je pense que sans doute la population des journalistes est davantage féminisée que ne l'est pour l'instant la population des chefs dans les segments supérieurs des mondes de la cuisine. Sur le cas de la France, alors effectivement, moi, mon enquête était uniquement franco-française. Francophone pour les blogs culinaires, mais pour les journalistes uniquement des gens, et en plus que franco-française, c'était même quasiment parisienne. Alors quand on ça renvoie aussi à la question de la situation sociale. En fait, la plupart des journalistes que j'ai interrogés, mon critère pour choisir qui était journaliste gastronomique et qui n'était pas, je voulais des gens donc ce soit l'activité principale, le métier principal. Alors peut avoir d'autres activités à côté, ce qui a été mentionné, ils ont souvent plusieurs types d'activités, mais en tout cas il fallait que ce soit leur gagne-pain. D'où aussi l'exclusion, pour moi, j'exclus toutes les personnes qui travaillent dans les guides, parce que, alors, il y a une partie des journalistes qui travaillent aussi dans les guides, mais la plupart des gens qui travaillent dans les guides, guide Guignot et autres, ce ne sont pas des professionnels, c'est-à-dire que les guides ne payent pas. En gros, si vous êtes un enquêteur, n'importe qui d'entre nous peut être assez facilement enquêteur pour un guide gastronomique. On va être défrayé éventuellement pour le restaurant.
Ça va susciter des vocations.
Ouais. J'ai rencontré beaucoup de gens qui sont entrés par hasard. Après, je sais pas aujourd'hui, peut-être qu'avec la mode, c'est plus difficile. Mais en tout cas, c'est pas rémunérateur. Donc, il faut forcément avoir un métier à côté pour gagner sa vie, parce qu'au mieux, on vous défraie le déplacement et potentiellement le prix du repas, mais sinon, vous vous faites inviter. Et en revanche, on vous paye pas ce qui rémunère les journalistes, à savoir la pige, en gros, l'écriture d'un article. Donc la plupart des gens qui travaillent pour ces guides ne sont pas des professionnels, sauf le cas du guide Michelin, qui est très particulier parce que c'est le seul guide qui emploie des gens qui sont salariés du guide et qui sont par ailleurs qu'un profil social qui est complètement absent aussi bien des critiques des autres guides que des journalistes que moi j'ai rencontrés, qui sont en fait des gens qui viennent du monde de la restauration. Donc c'est des experts qui doivent, pour rentrer, je crois, officiellement au guide Michelin, avoir une expérience dans l'hôtellerie-restauration, soit comme chef cuisinier, soit sinon plus largement dans la réception, enfin dans l'hôtellerie au sens large. Donc pour le Michelin, c'est peut-être pas possible, mais en revanche, pour les autres guides, c'est possible. Donc je sais plus pourquoi je parlais de ça. Oui, pour dire simplement pourquoi j'ai travaillé sur les... le système français. Alors, les journalistes me parlaient pas mal du fonctionnement de la presse gastronomique dans d'autres aires culturelles. Il y avait beaucoup une fascination pour le Japon, mais typiquement au Japon, ça fonctionne de manière complètement différente. Par exemple, pour les critiques de restaurants, avant de la publier, il faut la faire valider par le chef qui est critiqué. Donc, il y a un contrôle extrêmement fort de la publication et toutes les histoires de déontologie et d'indépendance que revendiquent les journalistes français, même si en pratique, ils ne peuvent pas toujours l'appliquer. Là, dans certains contextes culturels, c'est complètement, institutionnel et culturel, c'est complètement impossible. Donc, les façons de travailler des journalistes sont potentiellement assez différentes selon les pays. Alors, j'ai eu plein d'exemples de pays où ça se passe de manière très très différente de ce qui se passe en France. Et alors, il y a quelques travaux il y a assez peu de travaux globalement en sociologie sur ces mondes professionnels. Il y a quelques travaux sur les États-Unis, mais plutôt sur les journalistes culinaires. Et le lien avec l'enseignement ménager, comment en fait ce sont des femmes qui faisaient de l'enseignement ménager dans les années 40-50, qui ensuite ont créé les rubriques cuisine dans les journaux, avec toujours cette perspective d'éducation, qui était aussi la perspective de Cuisine et Vin de France dans les années 50-60. En gros, il faut apprendre aux ménagères à être des bonnes mères de famille et des bonnes épouses, et donc on va leur donner des clés pour bien cuisiner, pour choisir les produits, donc avec une perspective à la fois très pédagogique et très paternaliste aussi, qui renvoyait à un contexte social de l'époque. Donc j'ai peu... Alors aujourd'hui, ce qui se diffuse beaucoup, c'est les modèles, les guides, notamment gastronomiques. Il y a des guides qui sont internationaux, qui... pendant très longtemps, en fait, la France avait une sorte de suprématie avec le Michelin et les formations culinaires. Et dans les années 2000, sont apparus des guides. Alors au départ, aux États-Unis, Zagat, qui est un guide en fait où ce sont les gens qui vont au restaurant, qui envoyaient leurs critiques à deux journalistes et qui publiaient ensuite un guide à partir de ces critiques, donc des gens lambda. Donc ça a été une première forme de démocratisation de la critique au sens où c'était plus des experts qui critiquaient. Et dans les années 2000 est apparu un guide qui est le guide des 50 meilleurs restaurants du monde, c'est un guide anglais, et donc là qui met en comparaison tous les restaurants de l'ensemble de la planète. Évidemment, c'est comme tous les classements, c'est exactement la même chose que pour le classement de Shanghai et pour d'autres formes de classement. C'est une forme de classement qui est extrêmement critiquée sur sa constitution, mais qui, comme d'autres classements, a aussi des effets extrêmement forts sur la structuration, sur les types de cuisine qui sont valorisés. Et notamment, ça a permis la mise en valeur, alors dans les mondes de la cuisine, de cuisine... il y a eu la cuisine... au départ, c'était les Britanniques qui étaient lauréats. La cuisine moléculaire a été beaucoup promue par ce classement-là. Donc, toute la cuisine espagnole. Et aujourd'hui, c'est les cuisines nordiques, les Danois, qui sont au top dans ces classements-là. Et donc, ça a remis un petit peu en question, effectivement, la façon de juger, les critères de jugement qui étaient les critères traditionnels de cuisine classique, française, Escoffier, etc., que portait le Michelin de manière traditionnelle. Donc ça a permis en partie de réviser en partie les critères de jugement, et ça a aussi créé des formes de circulation. Les journalistes circulent beaucoup plus, vont justement dans ces gros festivals de cuisine qui sont organisés aujourd'hui, où des chefs internationaux viennent cuisiner, et puis ça permet une sorte de, sans doute, d'homogénéisation des façons de juger ce qu'est la haute cuisine, par rapport à une vision très franco-centrée qui était dominante jusque-là. Alors toute la question, c'est de savoir la place de la France là-dedans. Il y a eu tout un tas de... savoir est-ce qu'on a perdu la suprématie ou pas. Il faudrait voir avec les écoles de cuisine. Il y a quand même énormément maintenant de mouvements, des chefs aussi qui s'internationalisent davantage, mais qui, en in fine, j'aurais tendance à penser qu'ils reviennent beaucoup dans leur pays d'origine pour après faire carrière. Donc il faudrait voir quel rôle ça joue, cette internationalisation, dans les carrières de chef, mais c'est un peu une autre, et dans les carrières de journaliste, mais c'est un peu un, ça dépasse le champ de l'enquête qui était présentée ici. Sur la question de l'espace social, alors effectivement, quand on parle de gastronomie, ça renvoie à une culture cultivée plutôt, et de fait, historiquement, c'est une culture de la bourgeoisie qui a récupéré les normes et les codes de l'aristocratie, de la bonne cuisine aristocrate. Et le restaurant est né de la Révolution française parce que, en partie, alors il y a plusieurs facteurs, mais un des facteurs, c'est que les cuisiniers de l'aristocratie se sont retrouvés sans emploi et ont dû donc vendre leurs compétences, cuisiner non plus pour des familles privées, mais sur un marché ouvert. Et donc, la bourgeoisie a constitué la clientèle et ça a permis de créer ce lieu qu'est le restaurant. Donc, il y a une histoire de classe avec une démocratisation ensuite progressive au cours du temps. Là, dans les journalistes dont je parle s'adressent, alors pour la restauration, Encore une fois, il y a un côté très parisiano-centré parce que les rédactions des médias, en gros, les médias qui embauchent des journalistes gastronomiques sont des médias nationaux la plupart du temps. Dans les journaux régionaux, en fait, ce sont des journalistes qui font une rubrique gastronomie, mais aussi la rubrique jardinage et puis la rubrique je ne sais pas trop quoi. Enfin, qui vont faire plusieurs, qui ne vont pas être spécialisés en gastronomie. Et si on veut des gens qui soient spécialisés, il faut des médias qui aient une certaine force de frappe. Et donc, la plupart des rédactions, ça c'est lié à la structure de la presse en France, étant parisienne, la plupart des journalistes gastronomiques sont parisiens. Et en revanche, leurs publications peuvent s'adresser à des publics assez variés. Et typiquement, dans le domaine des recettes de cuisine, il y a vraiment toute une gamme des journaux qui s'adressent à des personnes qui ne savent pas cuisiner et qui ont peu de moyens. Et à l'inverse, la cuisine extrêmement sophistiquée qui transmet des recettes de chef. Donc pour les recettes, c'est quand même, il y a une volonté de s'adresser à l'ensemble du spectre social qui était assez présente aussi historiquement dans les médias culinaires. Après, pour le restaurant, il y a une contrainte financière qui est plus élevée, donc la question se pose un petit peu différemment. Et alors, ce que j'avais montré, j'avais étudié toutes les critiques qui avaient été faites d'un restaurant parisien. Dans tout type de journaux, il était critiqué par Femme Actuelle, par Le Figaro, par les journaux gratuits qui sont distribués à la sortie du métro. Et ce qui était assez drôle, c'est que quel que soit le journal où était publiée la critique, donc potentiellement le public aussi qui était adossé à ce journal, dans tous les cas, on mettait « c'est un excellent rapport qualité-prix ». Et ce qui était assez drôle, c'est qu'effectivement, on pouvait s'adresser à, je sais pas quoi, à une employée enfin, pour la campagne ou à un cadre de la défense. Et dans les deux cas, en fait, quel que soit le support sur lequel on lisait, on avait cette idée de mon rapport qualité-prix. Alors, je n'ai pas creusé davantage, j'avais été un peu surprise, et pour moi, j'avais vu ça comme une forme d'homogénéisation très très forte des critères de jugement des journalistes, et au fond, une dépendance assez faible au public. Globalement, ils connaissent assez peu le public, alors ça change un peu avec Internet, mais leur public, ils le connaissent assez peu et ils n'écrivent pas en général en ayant en perspective le public qu'il y a derrière, ou en tout cas très marginalement pour les publics ou avec des catégories très, très grossières. Je m'adresse à des femmes, donc je vais faire de la cuisine légère, enfin, je vais faire des restaurants où on mange léger, donc c'est quand même pas hyper fin comme les enquêtes marketing peuvent laisser supposer les enquêtes marketing laissent supposer que les journaux ont une forme d'adaptation extrêmement fine à leur lectorat. Dans le domaine du travail concret des journalistes, on ne remarque pas forcément ça. Et la dernière question sur les différents titres. Alors, les rubriques sont nées en même temps. La critique de restaurant est née. Donc, le restaurant est né en fait assez récemment, si on prend l'histoire longue. Et la critique de restaurant est née à peu près à la même époque. Et justement, alors en partie pour éduquer les classes bourgeoises à savoir quels étaient les bons critères sur comment il fallait manger et ce qu'il fallait manger. Et c'est né à peu près à la même période que les critiques théâtrales ou la critique cinématographique. Et notamment, alors c'est un fait qui est assez drôle, enfin drôle, étonnant, qui est qu'au départ, les premiers critiques gastronomiques, c'était des critiques de théâtre qui ont en fait transféré les compétences de critique théâtrale dans le domaine de la gastronomie. Et on retrouve ça au début du XXe siècle, jusqu'à assez récemment, des gens comme... Alors, c'est pas des critiques, ils sont pas du tout reconnus dans la profession, mais des gens comme Jean-Pierre Coff ou Jean-Luc Petit-Renaud viennent aussi des mondes du théâtre, en fait. Donc, il y a cette forme de... Au cours du temps, je sens qu'il y a vraiment un lien... Enfin, je sais pas, je suis pas sûre qu'on puisse trouver...
Eh bien, c'est ça, mais après, le spectacle, c'est Balzac, hein.
Il y a ce côté, alors, si ce n'est le théâtre en particulier, une parenté avec les formes de critique artistique plus classiques, même si tu as la question de est-ce que c'est de l'art ou pas la cuisine, je les laisse discuter de ces questions-là. Et à partir des années 80, il y a une forme, effectivement, on le voit bien dans l'étude, j'ai étudié sur le temps long, donc un magazine qui a été créé en 47 et qui est encore publié aujourd'hui, c'est le plus ancien qui est encore vendu. Et dans les années 80, on voit un passage de la cuisine, effectivement, comme contrainte au départ. Alors, jusque dans les années 80, entre l'après-guerre jusqu'aux années 80, en gros, l'idée, c'est d'arriver à apprendre à cuisiner, à bien cuisiner pour sa famille, et éventuellement à se faire plaisir en recevant les amis, quand on reçoit les amis. Et dans les années 80, on a un changement... Alors, dans les années 60, avec mai 68, les années 70, on commence à avoir un changement avec l'idée qu'il faut arriver à cuisiner vite, et bon... Tant pis pour les règles instituées depuis des millénaires, on va essayer de, enfin depuis des décennies, on va essayer d'arriver à cuisiner vite et à l'économie. Et dans les années 80, arrive une nouvelle façon, la promotion d'une nouvelle façon de cuisiner, enfin, qui n'est plus justement la cuisine, qui est la consommation culturelle, hédonique de la cuisine et de la restauration. Et donc l'idée, ça va être uniquement des recettes pour impressionner ses amis, on va reproduire des recettes de grands chefs, mais plus vraiment de la cuisine du quotidien ou simplement une cuisine de réception lambda. Donc il y a ce passage à la cuisine comme loisir qui après va se traduire aussi dans toutes les émissions de télé, il y a un certain boom de la presse gastronomique et culinaire dans les années 90 qui est un peu antérieur à l'apparition des émissions de télé, de télé-réalité qui ont aussi mis beaucoup en avant cette cuisine. Et une presse qui essaye de tenir un peu tout, qui essaye de tenir des préoccupations d'économie, en gros comment faire de bonnes affaires, acheter pas cher, des préoccupations de qualité avec notamment l'histoire de vaches folles, etc. Comment on fait pour acheter des produits qui soient bons à la santé, des préoccupations d'hédonisme, se faire plaisir et manger des produits un peu luxueux de temps en temps. Donc, il y a aussi une hétérogénéisation, me semble-t-il, de ce qui est proposé au lectorat assez récemment en termes de contenu à la fois de cuisine et de restaurant. Et donc, pour les titres, je suis... En fait, il y a des titres, effectivement, qui ont une prééminence. Le Monde a eu son critique, qui est un ancien... qui a un passé assez lourd. Courtine, qui était critique dans les années 50 jusqu'aux années 80, je sais pas quand est-ce qu'il a arrêté, enfin, fin des années 80 peut-être, qui est un ancien collaborateur, en fait, qui venait du journalisme politique et économique, qui a fait de la prison pour fait de collaboration et qui a été rembauché ensuite au Monde, au sortir de la guerre, par Beuve Méry, avec l'idée qu'il n'avait plus le droit de travailler dans des rubriques dites sérieuses, et donc on l'a collé dans les rubriques tourisme et gastronomie. Donc ça a laissé aussi un énorme passif sur... Enfin, c'est une histoire qui est revenue souvent dans les entretiens, cette histoire de, en gros, c'est une rubrique qui est issue de la collaboration, et donc on est méprisé par les autres journalistes, et donc ce qu'on fait, c'est pas sérieux, et donc ça justifie aussi qu'il y ait des comportements amoraux, notamment de se faire acheter par les chefs, etc. Donc cette histoire a été très marquante, cela étant, Courtine a eu sa trajectoire, ensuite il a été reconnu comme critique. Après, Le Monde a été un peu éclipsé comme instance de prescription, alors là, maintenant, ça revient sans doute un peu, parce qu'avec les suppléments... Monde 2 et autres, mais il y avait d'autres, Le Figaro était la référence absolue en interne dans la profession. Alors sachant qu'aujourd'hui, les références des gens dont je parle, quand je parle de François Simon, c'est un dieu vivant c'était un dieu vivant quand j'ai fait mon enquête, pour les journalistes, mais c'est quelqu'un qui n'est pas du tout connu, enfin je ne suis pas sûre qu'à part si vous êtes lecteur du Figaroscope, vous connaissiez, et encore il ne travaille plus, mais vous connaissez son nom. Donc c'est quelqu'un qui a servi vraiment de modèle en interne à la profession, parce qu'il a réussi à mettre en scène une pratique extrêmement... Il a incarné en fait le critique Michelin. En gros, il a montré qu'il travaillait de manière anonyme, donc il filmait en caméra cachée avec... des petites choses, enfin la température qui s'affichait sur sa caméra, etc. Et puis dans ses textes, il était assez virulent. Et donc, tous les critiques étaient très admiratifs de ses méthodes de travail, parce qu'en partie, eux n'étaient pas en mesure de travailler de la même façon. Mais en revanche, ce n'est pas quelqu'un qui a été très, très connu en dehors. Donc le Figaro a eu un... Et, enfin, François Simon et les gens autour de lui ont eu un énorme effet dans le monde de la critique gastronomique, mais... Effectivement, c'est vraiment là pour le coup, c'est quelque chose, c'est une connaissance d'initiée et c'est pas forcément les médias les plus connus. Je crois qu'il
passe toujours sur Arte.
Oui, maintenant il a diversifié ses activités, ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les médias prescripteurs, ça change un peu, mais je pense que moi j'ai eu la perspective très interne aux journalistes et typiquement les gens qui sont connus du grand public, je parlais tout à l'heure de Jean-Pierre Coff et Petit Renaud, quasi personne m'en a parlé et quand on m'en a parlé, c'était pour les rejeter, parce que pour eux, ils ne font pas vraiment un métier de critique, c'est des animateurs télé, et c'est pas des journalistes. Ils ne sont pas journalistes au sens où ils ne font pas un travail journalistique. Alors, après, moi, j'ai un peu épousé cette vision-là dans mon approche, mais de fait, c'est pas forcément la vision qu'on peut avoir de l'extérieur. Et peut-être un dernier point sur la... J'avais enquêté au départ, j'ai pensé à ça sur les critiques vinicoles, et en fait, c'est des mondes complètement séparés. La critique de vin et la critique de restaurant sont complètement les normes professionnelles, les événements où ils se rencontrent, les lieux. Alors que potentiellement, ils sont très proches dans les rédactions ou autres. Enfin, les revues des vins de France, à côté de Cuisine des vins de France, ils se côtoient assez facilement. Mais c'est vrai que c'est des mondes très hermétiques les uns aux autres. En réalité, ce qui est assez, A priori, oui, je ne m'attendais pas forcément à ça quand j'ai...
Le seul lien, c'est celui qui a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que pour créer le guide de la RVF, ils ont pris le guide Michelin et ils ont fait un copier-coller. Voilà. Et donc, on retrouve dans le guide de la RVF un système de classification identique à celui du guide Michelin. On a les domaines, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Et c'est vrai pour les autres guides. Guémio avait fait un guide des vins. Ils avaient pris le guide gastronomie. Ils avaient fait un copier-coller. Et même le guide... le non-guide de Sylvie Augereau est un copier-coller du guide omnivore. Voilà. Oui, donc ils ont repris ils reprennent les mêmes formats en principe et ils s'en inspirent. Il y a uniquement deux ou trois guides qui étaient originaux. Celui qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était le guide Fleurus conçu en relation avec des sommeliers. Et il y a eu aussi un guide qui était plus original, qui est le guide de Le Botin Gourmand. Qui, lui, ne s'est pas contenté de reproduire la formule gastronomique, a essayé d'innover, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné non plus.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour le vin, mais le modèle économique des guides est très problématique. En cuisine, en fait, les guides ne gagnent pas d'argent. Enfin, Michelin existe parce qu'il est sponsorisé par la firme Michelin. Ah oui, effectivement, enfin, en soi, le guide tout seul... Alors peut-être que maintenant ça change un peu parce qu'il s'internationalise et il développe d'autres activités, mais à la base c'était pas un guide rentable. Et la plupart des guides en fait sont dans cette situation où de fait, si on allait enquêter vraiment dans les restaurants, dans beaucoup de restaurants, ça coûte beaucoup plus cher que ça ne rapporte.
Le modèle économique, il n'y a pas de modèle économique derrière. Et d'ailleurs c'est ce qui était indiqué tout à l'heure dans l'exposé, c'est-à-dire que pour les guides dans le secteur du vin, il n'y a pas vraiment de modèle économique. Ils ont tous bricolé un modèle, ils ont tous inventé un modèle. Alors le guide Hachette a bien fonctionné, c'est le seul qui était rentable. Il a eu des tirages assez importants, 200 000 exemplaires, mais il est en déclin régulier. Il doit être, alors je n'ai pas de chiffre exact, hein, mais on est très très loin de ces tirages-là. Et les autres guides, en fait, ils fonctionnent. Alors ils ont encore une fonction symbolique importante, mais économiquement, ils ont un poids qui est quasiment ridicule. Ils sont peut-être même déficitaires. Alors le problème, c'est de savoir exactement quel est leur tirage, parce qu'évidemment, tous les acteurs qui font la promotion de ces guides ont intérêt à faire croire aux vignerons que les tirages sont très élevés. Donc, ils ont tous intérêt à faire croire que le guide est plus important qu'il ne l'est. Donc, à partir de là, c'est très difficile d'avoir des informations fiables.
Ah, pour le Michelin, ils sont basés sur Internet, et je crois que maintenant, ils vendent de la publicité, ce qui était quand même assez problématique pour un guide de faire d'un côté les gens qui sont là parce qu'ils ont acheté de la publicité, enfin ce que tu décris sur les différentes façons d'accéder au guide et qui... Ouais, c'est compliqué en fait à partir du moment où ils veulent rendre rentable l'activité, de le faire sans être dépendant des gens qui sont critiqués.
Alors, je propose peut-être de donner la parole, Stéphane, pour répondre.
Surtout que ça va être simple, parce que déjà, la première question, je ne vais pas y répondre. C'est la première question, la réponse est contenue dans la question. Quel est mon positionnement par rapport au monde du vin? En fait, je dis que ma position, elle est caricaturalement en adéquation avec ce que je suis. Donc, il suffit de prendre un cadre de couverture et de voir que je suis prof, etc., etc. Oui, et on comprend quel type de vin j'aime, non?
Ben, quel type de vin t'aimes, non? Vas-y, c'est ça.
c'est indiscret. Non, en fait, je suis...
Ah oui,
non, pas du tout. C'est caricatural, c'est-à-dire que j'adore les vins nature. Et je suis un consommateur de vins nature. Et évidemment, j'habite dans un lieu dans Paris où il y a des cavistes qui vendent des vins nature. Voilà. Et je consomme des vins avec des gens qui ont le même profil que moi. Et qui se sont tous convertis au vin nature, progressivement. Voilà. Ouais. Donc, c'est assez caricatural en termes de goût, puisque quand je me mets à goûter des vins qui ne sont pas des vins nature, j'ai beaucoup de mal à les boire.
Quelle région?
De toute région, moi j'aime tous les vins.
Oui,
je n'ai pas de distinction. Voilà, donc c'est assez... Voilà, donc la réponse, elle est...
Est-ce que tous les collègues ne sont pas aussi compétents?
Oui, non, mais je vais essayer. Alors, vin nature, ça vous parle? Vous voyez à peu près ce que c'est comme type de vin? Alors, je vais par contre prendre un peu plus au sérieux la seconde question. Je vais essayer de répondre à la question pourquoi je ne suis pas davantage servi de la catégorie de champ. Alors, je vais peut-être reprendre la question par la fin. Je l'évoque peut-être un petit peu pour la critique. Et en fait, je l'évoque très peu. Pourquoi? Parce que cet espace de la critique, de mon point de vue, ça ne ressemble pas réellement à un champ. Pour la simple raison que les différents guides sont très peu en relation les uns par rapport aux autres. Ils sont surtout en relation avec les domaines, enfin les secteurs dont ils font la promotion. Par exemple, je prends un guide comme le guide de Sylvie Augereau. Il est très peu en relation et il ne se positionne pas par rapport aux autres guides. Il se positionne par rapport à un segment de l'économie du vin. Et ces acteurs-là sont très peu nombreux. Il y a très peu d'acteurs, ils ne sont pas réellement en relation. Alors, il y a quelques guides qui sont en concurrence les uns par rapport aux autres, mais ça ne représente qu'un petit segment. Et donc, c'est très difficile de parler de champ, je trouve, quand on a simplement quelques acteurs qui sont isolés et qui n'ont pas forcément de lien structurel entre eux. Je ferme la parenthèse là-dessus. D'ailleurs, quand on regarde les acteurs, ils n'ont parfois pas de lien non plus entre eux. Il y a certains guides, par exemple les acteurs qui ont conçu, lancé, géré le guide Hachette, ceux qui ont lancé le guide Fleurus, ceux-là n'étaient pas des acteurs liés directement au monde des vins. Donc il est très difficile de définir un espace social tel qu'un champ. Je reprends la question alors, sous un autre angle. Je vais mobiliser la catégorie de monde. Alors pourquoi j'utilise la catégorie de monde? Parce qu'elle est un peu plus souple à utiliser. Dans le bouquin, je travaille sur des groupes sociaux. J'évoque les œnologues, j'évoque les producteurs, j'évoque les représentants de la profession, j'évoque les distributeurs. Est-ce que tous ces acteurs-là, on peut les objectiver en termes de champ? De mon point de vue, non, parce que ce sont des acteurs très différents, ils ne relèvent pas du même espace social, ils ne jouent pas le même jeu exactement, même s'ils sont en relation. Et donc, de ce point de vue-là, la catégorie de monde me paraît plus opérationnelle. Alors, suivant les types d'objets que j'étudie, je me sers de la catégorie de champ. Mais selon les objets et la problématique que j'engage, je préfère d'autres catégories. Et pour, vu ma problématique et vu mon objet, j'avais besoin de plusieurs catégories, donc je me suis servi de filières, de monde, et j'ai essayé de bricoler quelque chose avec ça. Mais la catégorie de champ, au sens strict, elle ne me paraissait pas réellement applicable. Voilà, en résumé, pourquoi, pour cet objet-là, je ne me suis pas servi de la catégorie de champ. Bon,
bref. Mmh, d'accord, merci. Enfin, après, moi, je rencontre les mêmes difficultés sur le monde du jazz, par exemple, sur le champ jazzistique. Il y a des musiciens, par exemple, entre la fraction qui restait très jazz traditionnel et puis l'avant-garde, c'est des musiciens qui se rencontrent, qui se croisent jamais, quoi. Mais en fait, le simple fait qu'ils soient quand même réunis dans des magazines, dans des revues, et aussi le fait qu'ils pourraient, enfin, ils peuvent soumettre des demandes de subvention aux mêmes instances, en rentrant dans la même catégorie de jazz et jazz et musique actuelle, bon voilà. Et donc les uns remportant régulièrement ces subventions, c'est l'avant-garde, et les musiciens de jazz traditionnel ont arrêté en général de le faire, parce qu'ils en fait pestent contre cet État qui subventionne que la création, donc voilà, tout un discours. Mais donc ils sont quand même, il y a des liens, et même si effectivement ce ne sont pas des musiciens qui se croisent, ils ne se croisent pas en général, hein, voilà, et... Ils ont quand même. Et par exemple, je pensais à cette.
Mais tu parles de musiciens, tu vois. Donc ouais. Toi, tu as un groupe homogène. Oui, moi, je ne parle pas que de vignerons. Si je n'avais eu peut-être que des vignerons, j'aurais pu imaginer avoir ce type de vision-là. Mais là, j'ai des acteurs qui évoluent dans des espaces sociaux différents, qui n'ont pas les mêmes trajectoires, qui ne se recoupent pas.
Oui, non, mais de toute façon, c'est pas.
Et puis, la catégorie de champ ne m'aurait rien apporté en termes de gain d'intelligibilité, si tu veux.
Ouais, dans ce cas-là. Alors peut-être que... Ah, moi j'avais juste une autre question, c'est « Des vins et des hommes », le titre...
Alors je peux justifier le sous-titre, je ne peux pas justifier le titre, c'est l'éditeur. Parce que en fait le titre au départ que j'avais proposé à l'éditeur, c'est « Au goût du jour ». Mais comme certains amis m'ont dit que « Au goût du jour », ça ne parlait pas, et l'éditeur m'a regardé en me disant « Mais s'il n'y a pas vin dans le titre, le bouquin, on va le retrouver dans le rayon « Science de la nature » ou etc. » Donc il m'a conseillé de mettre le mot « vin ». Et donc j'ai retenu ce titre-là, « Des vins et des hommes », c'est plus parlant. Mais par contre, le sous-titre, je l'assume entièrement. Alors pour moi, le sous-titre, il traduit réellement le contenu du livre. « Une économie symbolique du goût », c'est une manière aussi de me positionner autour de la problématique de base, c'est qu'est-ce qui fait la valeur d'un vin, hein, qu'est-ce qui fait un bon, entre guillemets, vin, comment on va construire la valeur, comment collectivement la valeur est reconnue, qu'est-ce qui fait aussi qu'est-ce qui fait qu'on attribue une valeur à un produit, et ensuite une valeur marchande à ce même produit. Et ça traduit aussi mon propre positionnement, c'est-à-dire que si je me tourne vers l'analyse économique, et il y a des économistes qui travaillent sur le vin, qui vont travailler sur le marché du vin, sur les évolutions, sur les prix, etc., je ne trouve pas ce que je recherche. C'est-à-dire que je ne trouve pas d'explication à ce qui va conférer une valeur à un vin. Pourquoi on va conférer une telle valeur marchande à un vin ? Alors l'économiste va me dire, mais il y a de la rareté, mais il y a un jeu de l'offre et de la demande. Alors bon, d'accord, j'en prends acte, mais moi ça ne m'explique pas ce qui construit la demande et ce qui fait qu'on va se porter sur ce type de produit. Donc j'ai besoin d'autres outils de compréhension de ces mécanismes marchands. Il y a un autre modèle. Alors le modèle économique, il ne me satisfait pas totalement, donc il ne répond pas entièrement à mes questions. Et puis il y a l'autre modèle, c'est le modèle gestionnaire. Le modèle gestionnaire qui consiste à calculer des coûts. Alors celui-ci m'intéresse davantage parce que moi je ne suis pas gestionnaire de formation et c'est très important de comprendre aussi la manière dont les acteurs raisonnent. Et les vignerons, ils produisent pour gagner leur vie, donc ils prennent en considération ces coûts. Il est intéressant de voir jusqu'à quel point ils parviennent à maîtriser ces coûts. Il y a beaucoup de vignerons qui sont des acteurs qui n'ont pas une vision bien claire des coûts de production. Mais les coûts de production, évidemment, ils interviennent dans la définition du prix de vente. Donc, il est intéressant de les prendre en considération, mais là aussi, il n'y a pas que les coûts. Et on le sait très bien, quand une bouteille de vin dépasse un certain prix, on voit bien qu'il n'y a plus de lien avec les coûts de production. Et on peut avoir des vins qui coûtent peu à produire et qui se vendent, qui se commercialisent à des prix très élevés. Donc, il n'y a pas un lien mécanique entre les coûts de production et le prix de vente. D'où la nécessité de trouver un chemin un peu intermédiaire entre une analyse économique, une analyse gestionnaire qui permet de comprendre comment se construit la valeur. Et l'économie symbolique du goût, c'est un peu ce chemin intermédiaire qui me permet de comprendre comment, collectivement, les acteurs, au travers de leur processus d'interaction, parviennent à définir des normes à leur avantage et comment ils parviennent à dire ce qu'est un bon vin. Et dire ce qu'est un bon vin, c'est un enjeu essentiel parce qu'ensuite, on va en tirer un profit économique. Et donc, il y a des luttes très fortes, et c'est ça qui m'intéresse, autour de la définition de ce qu'est un bon vin. C'est pour ça que je mets en tension des points de vue dans le livre, parce que les acteurs sont en lutte, et le monde du vin est intéressant à observer, parce qu'il y a des luttes très fortes dans cet univers social, pour dire ce qu'est le vin, pour dire comment on doit produire du vin, pour dire ce qu'est un bon vin, pour dire, et à partir de là, dire quelle est la valeur du vin. Et je suis parti, alors là si vous voulez, c'est le point de départ un peu théorique du livre, mais je pars aussi de constats élémentaires, c'est-à-dire que je voyais des vignerons qui faisaient du vin que j'achetais quasiment en cubis, et puis quelques années après, ils commercialisaient de leur vin à des prix très élevés. Et puis j'ai observé un phénomène qui a été évoqué, des vignerons qui déclassaient leur vin. Comment expliquer qu'un vigneron sorte de l'AOC qui est historiquement un gage de qualité, et parvienne à commercialiser son vin beaucoup mieux sur son nom. Alors, quels sont ces phénomènes de notoriété? Comment il fait pour produire cela et pour imposer aussi son propre produit? Donc là, il y avait toute une série de questions, à la fois théoriques par mes lectures, et puis des questions empiriques qui étaient liées à ma fréquentation et à mes observations de certains phénomènes. Et ça a donné un peu cette construction autour de l'économie symbolique du vin. Voilà, en quelques mots, expliquer le sous-titre. Et l'économie symbolique, c'est tout simplement parce que, de mon point de vue, la construction de la valeur est d'abord une construction collective. Cela dit, je n'exclus pas le modèle économique ni les modèles gestionnaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a une grande partie de la production du vin. Si on se tourne vers un modèle nouveau monde, avec une production de type industriel, on reste sur un modèle de production et une économie assez classique, hein. Des calculs, donc on réduit les coûts de production, des économies d'échelle et des choses de cet ordre. Et puis on utilise le marketing pour vendre son vin. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont ces mécanismes de construction de la valeur, qui sont des mécanismes symboliques, qui engagent des ressources de catégories d'acteurs, de groupes d'acteurs, et parmi ces ressources, il y a le savoir, la connaissance, il y a les groupes de médiateurs. La critique, c'est très intéressant de positionner la critique dans les mondes du vin. Parce que la critique, c'est à la fois un espace essentiel pour la valorisation marchande des vins, mais c'est un espace qui ne représente rien économiquement. Ce sont quelques acteurs, ils sont ridicules ou complètement marginaux dans l'économie du vin globale. Et pourtant, ils sont essentiels à la filière et au fonctionnement de la filière.
Alors, peut-être, avant de donner la parole à la salle, comme on dit, mais en fait, voilà, qui... à des questions ou des remarques. Ouais.
Merci pour la présentation des deux ouvrages, c'est très intéressant. Moi j'ai une question pour vous, Stéphane Milesi. Vous avez parlé un peu de... Enfin, je n'ai pas lu le bouquin, mais vous avez l'air de parler du rôle des levures dans le vin. Et j'aurais voulu savoir, avec l'apport des levures chimiques, en fait, qu'est-ce que ça change dans la valeur du vin? Est-ce que ça le rend plus cher d'un point de vue gestionnaire?
Je vais vous expliquer rapidement ça. Historiquement, on faisait du vin naturellement, c'est-à-dire que il y a des levures, parfois ça marche, ça marche pas. En tout cas, ces levures naturelles qui étaient sur la peau du raisin permettaient la fermentation et les levures transformaient le sucre en alcool. Donc c'était la fermentation alcoolique. Et le problème qui s'est passé, c'est que progressivement, on a traité les vignes. On a introduit des engrais. À partir des années 60, on a introduit des engrais. Donc on a une augmentation des volumes de production. Et puis on va introduire aussi des traitements chimiques. Il va y avoir des pesticides, d'ailleurs toute une série pour traiter les maladies. Et en supprimant les champignons, les maladies, les moisissures, etc., on tue les populations de levure. Ce qui fait qu'on a des vins qui ne se font plus en cave. Voilà, les fermentations ne se font plus très bien, voire ne se font pas. D'où la nécessité d'introduire ensuite des populations de levures chimiques produites par des œnologues. Donc, dans un premier temps, ça va répondre à la nécessité de mettre des levures qui vont produire la transformation, qui vont permettre la transformation alcoolique du sucre en alcool. Et puis, il y a eu des évolutions. Et évidemment, l'œnologie a cherché à produire des solutions satisfaisant les producteurs. Et donc, ils ont ensuite produit des levures qui donnaient des arômes, des goûts spécifiques. Les plus caricaturaux, c'est les mauvais vins du Beaujolais. Voilà, de la framboise, du cassis. Vous avez des levures qui vont donner des effets boisés aussi. Et puis, vous avez des levures maintenant qui sont beaucoup plus techniques aussi, des levures qui vont permettre de faciliter le démarrage des fermentations. Donc, il y a des levures. Et on nourrit même les populations de levures qu'on met. Enfin, voilà. Et il y a une seconde fermentation, on va remettre. Alors après, il y a des panoplies d'intrants, c'est énorme. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. Simplement, j'ai un peu documenté, j'essaie de comprendre qu'est-ce que les œnologues faisaient avec toutes ces levures-là. Mais en fait, vous avez des vins qui sont des vins extrêmement traités. Et ça permet d'avoir des vins qui vont répondre aux attentes gustatives de certaines catégories de consommateurs.
C'est le cas de tous les grands
domaines? Alors, non, parce qu'il y a des grands domaines qui sont en biodynamie. Donc là, ça va concerner certains. Après, il faut prendre... Le problème du vin, c'est que c'est un produit illisible pour le consommateur. Voilà, donc le consommateur ne sait pas ce qu'il boit. D'ailleurs, quand vous regardez une contre-étiquette de bouteille de vin, vous n'avez rien. C'est le seul produit alimentaire. Hein. Il n'y a rien sur une bouteille de vin.
Mais du coup, ma question, c'est justement, quel rôle joue justement l'apport de ces levures chimiques sur la vente des vins? Est-ce qu'il y a...
Alors, je ne peux pas vous répondre de manière massive à la question, mais aujourd'hui, il doit y avoir, alors je vous dis un chiffre un peu au hasard, je ne sais pas, 90% des vins, qui ne peuvent plus se faire sans cet apport-là. Hein, c'est-à-dire que les producteurs ne peuvent pas se passer d'une intervention œnologique.
Et voilà. Ça, les cahiers des charges, par exemple, des appellations, c'est jamais...
Non, les cahiers des charges sont faits pour des producteurs en agriculture conventionnelle. Donc, dans une AOC, vous pouvez recourir à tous ces produits œnologiques. Alors, c'est limité. Hein. On ne va pas utiliser certains produits que l'on trouve dans les vins du Nouveau Monde. Dans les vins du Nouveau Monde, c'est encore beaucoup plus large. Mais malgré tout, il y a de très nombreuses catégories de produits œnologiques qui peuvent être utilisés dans des vins conventionnels. Dans les vins bio, c'est pareil. Alors, dans les vins bio, c'est un petit peu plus restrictif, mais vous avez possibilité de levurer les vins. Et c'est à partir du moment où vous basculez sur les vins en biodynamie, où vous n'avez plus la possibilité d'introduire de levures autres que les levures du raisin.
On revient au vin naturel.
Et on revient au vin naturel. Les vins naturels, par définition, sont faits avec du raisin. Voilà, ça paraît étrange, mais on peut faire du vin avec du raisin.
Et donc on accepte qu'il soit parfois mauvais, raté.
Alors mauvais, raté. Alors ça c'est très intéressant parce que je fais des entretiens avec des œnologues qui m'expliquent ce qu'est un bon vin, ce qu'est un mauvais vin. Donc eux, ils ont la science. Donc moi, je suis en position d'ignorant par rapport à eux. D'ailleurs, c'est assez intéressant d'un point de vue sociologique parce que je fais des entretiens avec différentes catégories d'acteurs Et selon les catégories d'acteurs, certains acteurs ont une assurance qui font qu'ils m'expliquent ce que je dois penser. Et donc, d'un point de vue sociologique, c'est du pain béni, parce que le noble m'explique que je ne comprends rien, il m'explique ce qu'est un bon vin, pourquoi tel vin est un mauvais vin. Par exemple, les vins naturels sont tous des mauvais vins. Mmh. On devrait interdire ça. Et j'entends des choses, donc c'est assez amusant. Alors que d'autres catégories d'acteurs qui ont beaucoup moins d'assurance vont être beaucoup plus prudentes dans l'expression de leur jugement. Mais les œnologues ont la science pour eux. Et ils sont formés, ils ont un diplôme, on va dire, vous êtes des scientifiques, vous savez faire du vin, et vous avez autorité à dire ce qu'est un bon vin, au sens où vous pouvez retoquer un vin, hein, dans une AOC. Hein, c'est-à-dire ça, on les forme à être des détecteurs de défauts. Et dès qu'un vin a une forme de déviance, hein, dès qu'un vin naturel... Alors les vins naturels, ils sont un peu plus fragiles que les autres, parce que comme on ne met pas ou très peu de soufre, évidemment, ils sont plus sensibles à des déviances aromatiques. Et donc, les œnologues sont formés pour détecter les défauts de ces vins-là. Et évidemment, ce sont des chasseurs de vins naturels. Sans en avoir conscience, c'est ce qu'ils font. Alors, ils ne vivent pas comme ça. Hein, ils vivent, eux, ils sont les garants d'une qualité. Mais la qualité, c'est quoi? C'est un standard de production. C'est une qualité au sens de norme ISO. Et donc, ils appliquent leur standard de qualification, ils contrôlent les vins, ils vont éliminer tous les vins naturels. Et des vins qui comportent une quantité de produits inimaginables sont des vins parfaitement consommables pour eux. Et donc là, c'est assez intéressant, ils peuvent le justifier. Hein. Vous faites un entretien avec l'œnologue, il vous explique ça de manière ouverte. Alors, il ne formule pas comme je viens de vous le dire. Hein. Il ne va pas vous le dire, il ne formule pas ainsi. Mais il peut le défendre et l'argumenter.
J'avais une question sur la façon dont s'est constitué au cours du temps le vocabulaire de la critique œnologique. Parce que la critique œnologique, elle utilise un ensemble de ressources qui sont quand même très, très étranges, très, très fines. Enfin, la façon dont on décrit oui. Le goût, le bouquet, oui. La durée en bouche, etc. D'un vin. Donc, il y a un vocabulaire qui est très, très spécial. Et il me semble que, tout à l'heure, vous disiez que les critiques ne forment pas un espace parce que chacun s'occupe de sa région, etc. Mais en même temps, ils partagent les mêmes ressources. Et d'une certaine manière, dans la façon dont ils mettent en valeur les vins de leur région, ils sont en train tous d'essayer de faire monter leur région par rapport aux autres régions dans l'espace des vins d'un même pays. Donc, bon, est-ce que là-dessus, enfin, au fond, les critiques de vin, ils partagent quand même les mêmes ressources. Et alors, il y a des ressources qui sont du type, disons, adjectif qualificatif du goût, etc. Mais il y a aussi dans la critique des arguments, des éléments qui se rapportent au fait que le critique sait comment le vin a été fabriqué et il donne aussi des indications sur la façon dont on a rajouté du sucre, la façon dont on a mis beaucoup de soufre ou pas beaucoup de soufre, la façon dont on a conservé le vin dans des tonneaux dans lesquels on a mis des copeaux de façon à renforcer le goût boisé du vin, etc. Donc, il me semble quand même que la critique partage un ensemble de ressources qui fait que, d'une certaine manière, l'ensemble des critiques se trouvent dans le même espace. C'est pas parce qu'ils portent des avis sur des régions différentes qu'ils ne sont pas dans un même espace de la critique.
Je pense
à ce que c'est, par exemple, voilà, je travaille sur le domaine du sport, bon, les gens peuvent évaluer et commenter des exploits sportifs dans des disciplines complètement différentes. Le type qui s'occupe du ski, il ne discute jamais avec le type qui s'occupe du foot. Cela dit, n'empêche que c'est un ensemble d'univers qui sont parallèles, mais qui sont en fait construits de la même manière et dans lesquels à la fois la production de la performance répond en fait à des critères qui sont très semblables, et la production de la critique de ces performances, elle utilise aussi en fait les mêmes arguments qui, donc, d'une certaine manière, voilà, les journalistes sportifs, ils forment un espace commun, même si ils ont des histoires qui les ont emmenés dans des terrains sportifs très différents dans tous les jeux. Votre réponse tout à l'heure...
Je vais expliciter. Ouais. De mon point de vue, la critique, elle existe. Elle n'a jamais beaucoup existé, mais elle existe de moins en moins. Par exemple, si vous prenez la critique de référence, le critique de référence, c'est Bethany Dessauve, hein, c'est le Saint-Andème, Bethanie Desov, c'est eux qui ont repris le guide de la RVF, qui ont créé le guide de la RVF, qui aujourd'hui ont le guide Bethanie Desov. Et à côté d'eux, il y a très peu de choses. Par exemple, le guide Hachette des vins est un guide qui n'est pas fait par de la critique. Il n'y a pas de critique dans le guide Hachette. Donc c'est, je parle d'un espace critique, mais la critique en matière de vin, ça représente très très peu de choses. Donc par exemple, le guide Hachette n'est pas un guide fait par des critiques. Il n'y a pas de critique. Hein, c'est Hachette, la maison Hachette, qui délègue aux syndicats locaux l'expertise pour chaque appellation. Donc l'opération critique, elle est faite par le syndicat localement. Donc ce n'est pas un espace critique.
Et c'est perçu comme critique quand même.
C'est perçu comme critique, mais il n'y a pas... Alors, c'est pour ça que je vais répondre en disant qu'il y a une culture qui s'est diffusée. Et je fais une sociologie de la diffusion de la culture œnologique, mais ce n'est pas un groupe homogène, il n'y a pas un espace de la critique réellement. De mon point de vue, il n'existe pas. Le guide Hachette, donc, on va l'enlever de la critique, parce qu'il n'y a pas de critique, il n'y a pas d'acteur de la critique là-dedans. Je vais enlever aussi, par exemple, Sylvie Augereau. Sylvie Augereau, qui fait le petit guide des vignerons, elle se définit en opposition à toute la critique. Donc elle ne note pas les vins, elle ne parle pas des vins, elle fait des portraits. Et c'est une autre manière de parler du vin contre la critique et contre la culture œnologique. Donc il faut voir comment se positionnent les acteurs. En fait, il reste très très peu d'acteurs dans cet espace qui véhiculent et qui vont tenir un discours pour noter les vins et parler de manière savante des vins. Alors, par contre, ce qui existe et qui est très très fort, c'est la culture œnologique. Et ça, c'est quand même une performance aussi de cette filière-là, d'avoir diffusé dans la société une culture œnologique. Je vais dîner au restaurant, on sait que j'ai publié un bouquin, évidemment, on me regarde boire un verre de vin et on me demande un commentaire savant pour savoir ce que je pense du vin. Mais je ne pense rien, je bois un verre de vin. Je ne vais pas faire un commentaire d'esthète distingué sur le verre de vin que je vais boire. C'est d'abord un rapport de plaisir que j'ai au vin. Mais cette culture, elle joue un rôle très très important et prégnant. Donc on attend de tous les consommateurs qu'ils intériorisent cette culture. Cette culture-là, au départ, elle naît et elle est constituée par les œnologues. Et pourquoi les œnologues ont-ils besoin d'une culture pour décrire le vin? C'est justement au nom des procédures de sélection et d'évaluation des vins pour voir si les vins sont conformes aux normes pour ensuite pouvoir les commercialiser. Mais cette culture, si on prend des qualifications avec des termes techniques, la dégustation de vin ne passe pas. On ne peut pas dire ce vin-là, il sent telle ou telle molécule. Ça ne marche pas. Vous voyez, donc on va inventer aussi un vocabulaire plus ou moins métaphorique en disant voilà, c'est de la framboise, c'est de la banane, c'est je ne sais pas trop quoi. Et cette culture, cette manière de déguster le vin, elle va se diffuser très largement. Si vous remontez aux années 60, les vignerons, ils dégustent pas, ils n'ont pas ce vocabulaire-là, ça n'existe pas. Alors, évidemment, ils goûtaient le vin, ils allaient en cave, ils goûtaient, ils voulaient voir si leur vin n'avait pas un défaut, et puis on avait des manières de goûter, mais on n'avait pas ce vocabulaire technique que l'on a aujourd'hui et qui résulte de la diffusion sociale d'une culture du vin et d'un rapport au vin éduqué. Et ça, c'est une invention aussi qui nous vient de l'œnologie. Alors là, je prépare un bouquin collectif, et il y a une doctorante chinoise qui a fait un papier tout à fait intéressant sur la formation au vin en Chine. Et en Chine, on a une véritable explosion de la formation et de l'offre de formation en matière de vin, non pas de professionnels, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire ce sont simplement des consommateurs qui sont éduqués au vin. Et il y a un engouement pour ça. Alors pourquoi? Parce que c'est un produit distinctif, mais la clé, c'est qu'économiquement, pour valoriser le vin, eh bien, il faut qu'en face, on ait un consommateur qui est capable d'opérer toutes ces opérations de distinction, de jugement, de classification pour apprécier un produit et lui donner une valeur marchande importante. Et à partir de là, on va pouvoir valoriser des produits auprès de consommateurs qui sont prêts, parce qu'ils ont cette culture-là, à payer très cher une bouteille de vin. Et donc cette construction-là, c'est une construction récente. Mais ce n'est pas directement la critique qui a promu ce discours-là. Hein, ce discours, je pense qu'il s'est diffusé par d'autres canaux, par d'autres voies. Et le rôle de la critique aujourd'hui, il se réduit. Et il se réduit de plus en plus dans le domaine du vin. Là, je prépare une étude sur l'événementiel. Je pense que c'est l'événementiel qui, aujourd'hui, dans la promotion des vins, joue un rôle de plus en plus important. Et l'événementiel, c'est lié à des transformations aussi, des rapports au vin. On a besoin de rencontrer le producteur. Je ne bois pas n'importe quel vin. Je bois le vin produit par une femme, par un homme, et je veux mettre un visage derrière le vin, et je veux l'ancrer dans un terroir. Donc il y a tout un autre imaginaire, un autre rapport au vin, qui explique que l'événementiel se substitue en grande partie à l'espace de la critique. D'ailleurs, quand on fait une analyse de l'espace critique, on s'aperçoit que les opérateurs d'événementiel, eh bien, ce sont les mêmes. qui fait de l'événementiel dans le secteur du vin, qui est le plus gros opérateur, c'est Bethany Desob, qui ont su se repositionner parfaitement. Ils se servent encore de la critique qui doit représenter dans leur activité économiquement très peu de choses. Par contre, ils font des salons en France, c'est le Carrousel du Louvre, ils font des salons partout dans le monde, et ils font la promotion des vins français. Donc derrière, il y a toute l'économie de la filière. Enfin, l'économie, il n'y a pas toute l'économie. Il y a l'économie champenoise, l'économie bordelaise qui est derrière et qui les soutient, c'est-à-dire des poids lourds de l'économie du vin. Et on voit très bien que l'événementiel, il s'est substitué en quelque sorte à la critique. La critique, elle existe comme faire valoir, pour faire croire qu'on juge de manière savante les vins. Mais elle ne joue pas un rôle très très important aujourd'hui. Elle a joué un rôle très très important dans la décennie 80-90 parce qu'elle accompagne les transformations du monde du vin. Il y a beaucoup de petits producteurs qui étaient des viticulteurs qui produisent simplement du raisin, qui vendaient ensuite leur raisin au cave coop ou qui vendaient leur raisin au négoce et qui, pour sortir et pour pouvoir commercialiser en leur nom du vin, pour pouvoir vinifier, ont dû s'appuyer sur tous les dispositifs de médiation pour se faire connaître. Et la critique, c'était le moyen. Faire parler de son domaine dans le guide d'achat, c'était le moyen d'exister et de vendre son vin. Donc là, durant cette période-là, elle a joué un rôle très très important, la critique, et un rôle structurant, ce qui explique que durant les années 80-90, il y a eu autant de guides, parce qu'il y a eu beaucoup de guides, beaucoup ont disparu, ont fait faillite, et aujourd'hui les tirages ont beaucoup baissé. Donc la critique a joué un rôle très très important dans la structuration de la filière, mais je pense qu'aujourd'hui elle joue un rôle qui est beaucoup moins important. Et il faut voir comment elle s'articule, hein. C'est pour ça que j'étais sensible à ce qui a été dit. C'est-à-dire, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que la critique, elle ne vit pas en dehors de l'économie de la filière. Elle est vraiment imbriquée dans la filière. Et ces acteurs-là, Bethany Desob,
les compagnies de test vin, ça n'existe plus. J'ai l'impression d'avoir entendu de la critique de qualité de vin de gens qui étaient des consommateurs experts et qui véhiculaient un langage d'évaluation, de jugement de vin qui n'était pas uniquement une fabrication personnelle, qui était, j'ai l'impression, un langage qui circulait.
Ah oui, mais c'est très juste. Il y a une culture, il y a une culture œnologique qui s'est très largement diffusée, et on parle du vin au travers de cette culture. Mais c'est un filtre culturel et c'est un filtre discutable.
Ce n'est pas uniquement un jugement critique fait par des critiques professionnelles. Ouais. Dans des revues, je pensais au jugement critique de celui qui...
Ah, il est omniprésent. Somme, quoi. Oui, le jugement critique, il est omniprésent. Il est très largement répandu. Ouais. Et ça traduit aussi la transformation de notre rapport au produit. On n'a plus un rapport simple au vin.
Ce qui me paraît intéressant, enfin, pour comparer les différents univers réunis ici, y compris parmi les présentateurs qui eux-mêmes ont travaillé sur des domaines où, justement, les intermédiaires et la critique interviennent, c'est la question transversale du poids relatif des différentes catégories. Donc on pourrait parfaitement imaginer une analyse transversale de l'univers du vin et de celui du cinéma, par exemple, en posant la question, au fond, quel est le poids, par exemple, des critiques c'est pas évident, c'est des questions qu'on peut se poser aussi dans le domaine du théâtre ou moi je me pose la question dans le domaine de l'opéra, est-ce que ça compte tellement? Bon, alors il y a aussi le problème quand même des consommateurs et de l'évaluation, alors pas des consommateurs en soi, mais au moins de l'évaluation des effets des fluctuations de consommateurs. Qu'est-ce que c'est qu'un spectacle, si on prend l'exemple du spectacle, un spectacle raté, est-ce que c'est un spectacle où consommateurs fuient, et est-ce le cas? Alors si on prend l'exemple de l'Opéra de Paris, par exemple, actuellement, il y a quasiment un public captif qui tient au fait qu'il y a une surabondance de la demande, que finalement on peut toujours remplir les salles, que les critiques soient contents ou pas, c'est l'équivalent des œnologues, c'est-à-dire les metteurs en scène, qui font la règle du jeu quasiment. On fait du la damnation de Faust vue par un tel, c'est lui qui rajoute la levure, qui rajoute le machin. Et puis finalement, ça fait des salles combles, et c'est le directeur de théâtre qui probablement arbitre entre eux, le metteur en scène, etc. On met toute une économie internationale qui produit cette alchimie étrange de la valeur de tel ou tel spectacle. Et évidemment, ça varie selon les espaces. La comparaison, ça me paraîtrait quelque chose d'extraordinaire, surtout qu'il se trouve qu'en France actuellement, enfin, en discutant avec vous, il y a des tas de travaux sur le théâtre, sur le jazz, sur le... voilà, moi je rêverais un peu d'une espèce de colloque transdisciplinaire, transobjet, pas transdisciplinaire, mais transobjet, sur, comme ça, les critiques, qu'est-ce que c'est, comment ça intervient ici dans tel domaine, c'est pas la même chose dans tel autre, etc. Voilà, c'est des remarques libres.
Enfin, moi je rêverais plutôt d'un colloque d'alcooliques et qui ne s'intéresserait qu'à des boissons alcoolisées, parce qu'il y a des similitudes.
Oui.
Il y a des similitudes entre les différentes boissons alcoolisées et les manières dont on les valorise. Donc, par exemple, le raisonnement que je tiens sur le vin, on peut regarder du côté brassicole, et aujourd'hui, le monde de la bière change beaucoup aussi, c'est très intéressant à observer, il y a la microbrasserie qui se développe, et il y a apparition d'un guide achète des bières. Et donc, le processus de valorisation de la bière et de la microbrasserie passe par la création d'une forme de médiation critique. Passe aussi par de l'événementiel, parce qu'il y a de l'événementiel bière, aussi brassicole, et c'est vrai pour les whiskies, c'est vrai pour les sakés, donc tous ces produits-là vont obéir avec en plus une transposition de la culture et des savoir-faire du domaine du vin sur les autres alcools. Là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est par exemple d'observer le saké. Le saké évolue de la même manière que le vin. C'est-à-dire que le saké, qui est un aliment, en fait, devient un alcool distinctif qu'on va consommer un peu comme le vin. Et il y a également l'équivalent du sommelier, spécialiste du saké, qui apparaît au Japon. Les sommeliers ont été des vecteurs de la valorisation du vin dans le cadre de la gastronomie. Eh bien, au Japon, on a à peu près les mêmes phénomènes, ou des phénomènes très comparables sur le saké. Donc là, je vois bien l'espace de comparaison. Après, quand on est sur d'autres types de produits... oui, mais alors il faut regarder à la loupe, et ça me paraît parfois plus compliqué.
C'est pas évident, hein, parce que si l'idée est aussi d'évaluer l'effet ou la place de la critique ou l'importance de la critique, c'est assez compliqué. Et en fait, d'ailleurs, il y a des économistes qui sont essayés, mais avec des dispositifs, d'ailleurs, que tu as critiqué, Julien, je crois, sur l'effet de la critique. Enfin, en tout cas.
Sur les films,
enfin, ouais, sur le succès des films, etc. Avec des dispositifs assez différents les uns des autres. Ça donne des résultats, d'ailleurs, qui ne sont pas toujours très convaincants. Ou... Voilà, il se dit un peu, il y a deux discours. Il y a un discours qui dit, en fait, la critique, ça ne change rien au succès des films ou des livres ou de tel album. Et puis, dans d'autres cas, on va dire, si, quand même, ça peut faire le succès de tel ou tel. Mais je crois qu'au-delà de ça, il y a quand même le rôle de la critique, c'est quand même un rôle de production de la croyance de façon générale. Et au-delà de la possibilité, la capacité de la critique à faire le succès ou non de certaines œuvres, ça donne au lectorat. Alors, il faut aller au-delà des guides, je pense, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a les guides, mais maintenant, il y a la critique, c'est la critique de la presse généraliste, la critique spécialisée, les blogs et tout. Ça donne quand même, à un moment donné, pour les amateurs qui s'intéressent, que ce soit au jazz, au vin ou à autre chose, ou au cinéma, un support de production de la croyance très fort, je pense. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui... et qui nourrit l'intérêt, quoi, et qui aussi transmet des normes de goût, des catégories d'appréciation, et qui socialise à cette culture, à la culture du vin, là, en l'occurrence. Mais,
sur ce point, on est d'accord, sur le dit, il y a des fluctuations de valeur qui affectent quand même le comportement des individus. Dire mon film, le vin, ça vaut rien.
Oui, alors moi, quelque chose qui m'a toujours épaté, c'est la capacité des guides à s'imposer dans un univers concurrentiel. Parce que mettez-vous à la place de producteur, quand vous êtes un producteur de vin bordelais ou ailleurs, il y a des enjeux économiques énormes, et donc il faut accepter le jugement de la critique. Et il joue le jeu de la critique, et il accepte. Alors aujourd'hui, il y a des formes de régulation, il y a des jeux d'acteurs, c'est très compliqué, il faut les démêler. Mais malgré tout, il y a une forme de violence symbolique qui s'exerce pour les producteurs. Et ils se prennent ça, il y a un arbitraire très fort.
Ouais, alors je ne sais pas si c'est dans le domaine de la critique de restaurant. La plupart des critiques constataient un déclin de leur pouvoir de prescription. En gros, l'idée qu'aujourd'hui, c'est plus un... Et les effets sont très courts, en fait. On va parler d'un restaurant au moment d'ouverture, et pendant 2 mois, les gens vont y aller. Et après, s'il n'y a pas une... C'est beaucoup plus difficile, après, de tenir sur la durée la réputation positive. Et un des points, c'est que l'enjeu n'est pas tellement élevé pour la plupart. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans le vin, mais dans la critique de restaurant... Quasi toutes les critiques sont positives. En fait, si on parle d'un restaurant, c'est parce qu'il est bien. Et en fait, quand un restaurant n'est pas bien, on n'en parle pas. Et les seuls cas où les critiques sont négatives, enfin, ce que m'expliquait un critique, mais je pense que c'est assez... lui, c'était ça. Il m'expliquait sa propre pratique, mais je pense que ça pourrait être extrapolé à d'autres. Il disait, moi, je m'autorise à critiquer. Lui, était réputé pour critiquer très méchamment les restaurants, chose que ne font pas ses collègues. Il me disait, en fait, quand je critique très méchamment, déjà, je suis très précis sur ce que je fais. Et en plus, je critique que... par exemple, les Ducasse, ou en gros les très grands chefs qui, de toute manière, auront une clientèle, quoi qu'il arrive, un peu comme l'opéra. En gros, au fond, qu'on dise du bien ou du mal d'un spectacle, étant donné que de toute manière la salle sera comble et que ce n'est pas la critique ce jour-là qui va la remplir, on peut se permettre de dire que ce n'est pas bien. Alors en revanche, un petit producteur qui lance son vin nature, je ne sais pas trop où, et qui investit ses économies là-dedans, on ne va peut-être pas aller le chercher.
Dans ce cas-là, la critique, alors pour ce type de producteur, la critique ne joue pas. Ce qui joue, c'est la cooptation par les autres acteurs qui sont dans la mouvance et qui lui permettent de commercialiser.
Je pensais que tu disais qu'ils se mettent en danger en acceptant le jeu de la critique.
Là, je pensais aux gros opérateurs. Mais je n'ai pas voulu répondre en dans le détail parce que, en fait, il y a des vécus que j'essaie de, dans le livre, j'essaie de les restituer, des vécus qui paraissent complètement discordants. C'est-à-dire que je vais interroger un vigneron, vous interrogez un vigneron, il va vous dire oh, Guy Dachette, je m'en fous complètement, ça n'a pas d'incidence. Vous allez interroger son voisin, il va vous dire le contraire. Alors, ils disent tous les deux la vérité, sauf qu'ils ont des vécus différents. Et il faut mettre en relation le producteur, ses ressources, son positionnement, avec ce que dit la critique, le type de public qu'elle vise, etc. Donc à chaque fois, il faut moduler pour voir en quelque sorte quels peuvent être les effets produits par une critique. Alors, il est évident que, par exemple, un guide comme Parker, il a fait exploser les prix et les ventes dans certaines régions de France. Il y a 15 jours, j'étais dans la Drôme, en Ardèche, côté Cornas. Les habitants qui adorent leurs vins locaux, ils sont très attachés à leurs vins, ils ont beaucoup de mal à acheter encore du Cornas parce que les prix ont flambé et puis les producteurs ont fait des vins qui étaient des vins pour l'export. Donc ils ont changé aussi leur manière de faire du vin. Donc on voit que la critique, là, elle a joué un rôle très très important. Alors le problème, c'est de ne pas isoler la critique et de considérer qu'elle est une cause univoque. Pourquoi ? Parce que quand un Parker intervient, bien souvent, il y a toute la machinerie œnologique qui accompagne. Critique, c'est quand il y a la critique, il y a Parker. Il y a aussi les œnologues qui vous permettent de faire des vins qui vont satisfaire le goût Parker. Donc il y a toute une économie, en fait, ce sont des transformations de l'économie du vin. Donc ça produit, on voit qu'il y a des transformations structurelles qui peuvent se produire et qui sont liées au rôle de cette critique-là. Alors, Parker n'a pas eu beaucoup d'influence sur les consommateurs français parce qu'il est très peu lu, en fait. Mais par contre, il a joué un rôle pour beaucoup de producteurs français, un rôle très très important, notamment dans le Bordelais et dans quelques autres régions de France, parce que c'était une vitrine à l'exportation énorme, un levier pour l'exportation énorme, avec des prix qui ont flambé... Et il y a aussi des producteurs qui se méfient beaucoup de la critique parce qu'ils savent très bien qu'un coup de cœur, un guide achète, c'est une année, ça marche, et puis l'année derrière, il n'y a plus rien. Donc il n'y a pas de régularité. Donc il y en a qui sont très critiques à l'égard du guide achète et de ses effets de coup de cœur. Sans parler qu'il y a aussi toutes les organisations professionnelles qui en rajoutent avec des labels, des consécrations, des médailles.
Ça fait concurrence, non, quand même. Ah ben c'est la critique, t'en parles dans le bouquin. Les médailles, c'est vrai qu'on voit des tas de bouteilles avec des médailles de ceci, tous les concours agricoles, etc. Comme tu dis d'ailleurs, le consommateur lambda est peut-être plus sensible à ça que à la critique, même dans le guide achète, qui est pourtant le plus grand public.
Oui, mais les guides ont intégré ça, donc les guides vont proposer aussi des collerettes, des médailles, des choses comme ça pour distinguer les vins. Le problème, c'est que je mets à la place d'un consommateur, quand il se retrouve face à des rayons de supermarchés remplis de bouteilles de vin, comment faire son choix? Mais il va opter pour la bouteille qui a une médaille plutôt que celle qui n'en a pas. Sans trop savoir quelle est la différence.
Il y a un phénomène quand même, je ne sais pas si c'est aussi valable dans le vin, mais dans le fait que les gens maintenant puissent critiquer sur Internet et que n'importe qui puisse noter. Alors typiquement TripAdvisor, alors c'est pas la critique, oui en partie c'est de la critique, a aussi beaucoup, a fait un peu changer le discours de certains qui auparavant avaient une attitude un peu méfiante vis-à-vis de la critique professionnelle et qui maintenant tentent à dire au moins les professionnels, eux, ils sont rigoureux dans leur jugement, etc., contrairement aux clients qui, parce qu'on lui a pas, je sais pas quoi,
alors le à table. Les blogs, et il y a un site qui est un forum, La Passion du Vin, qui fonctionne très bien. Une grosse fréquentation, mais il s'adresse à un public de consommateurs très éduqués. C'est pas le public de la grande distribution qui va consulter le forum pour savoir. Et bien souvent, ce sont des vins qui sont commentés, mais après des années de vieillissement. Donc, ce sont pas ceux qu'on trouve à l'achat. Donc, on peut pas directement se servir du forum ou de l'information pour aller acheter du vin. Donc, c'est une information précieuse pour les passionnés, mais ce n'est pas une information marchande pertinente pour l'acheteur. Et il y a peu de... Non, le guide d'achat, c'est le guide d'achat qui reste un guide d'achat. Mais on n'a pas d'équivalent en ligne au guide d'achat. On pouvait imaginer que les guides, comme ils ont enregistré une baisse de leur vente sur support papier, trouveraient des formules en ligne. Mais c'est un peu comme pour les guides gastronomiques. En fait, il y a pas de... ils n'ont pas vraiment trouvé de solution alternative en ligne.
Oui, non, ils n'ont pas trouvé le modèle. Tenter une stratégie numérique maintenant, le fooding, c'est un guide en ligne, il y a quand même...
Oui, mais enfin, c'est du bricolage plus qu'un modèle bien établi.
Bah, essaye de suivre la tendance. Mmh. Mmh.
J'avais deux questions, oui. Peut-être très rapides. La première, c'était pour Stéphane Livesi, c'était quoi, il dit que dans son ouvrage, qu'il écarte les coopératives, qu'elles ne sont pas très présentes.
Grave erreur, 50% de la production de vin, voilà, est produite par les caves coopératives, je le sais.
Et surtout, je pense que c'est un élément qui peut vraiment être intégré dans l'ensemble de la démonstration, notamment le fait qu'avec le grand mouvement d'industrialisation, on va dire, du vin, ces gens qui sont dans les coopératives étaient déjà dessaisis, on va dire, de la production. C'est plus, on va dire, des viticulteurs qui produisent le vin que des vignerons qui le voilà.
Alors, le problème, c'est que le modèle coopératif, il est compliqué. Il n'y a pas un type de coopérative. Il y a d'énormes coopératives avec beaucoup de producteurs de raisins qui n'ont pas vraiment leur mot à dire parce que c'est tellement gros. Et puis, il y a des petites coopératives où les producteurs ont tous leur mot à dire. Mmh. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de coopératives. C'est un défaut d'optique dans le bouquin, mais je m'intéresse à certains phénomènes et je ne peux pas m'intéresser, j'allais dire, à l'économie la plus routinière du vin. Voilà. Donc c'est un défaut d'optique assumé. Mais je sais que ça représente 50% de l'économie. Non, pas l'économie, hein. Là j'ai une grosse bêtise. 50% de la production, ce qui est très différent. C'est-à-dire que ce sont bien souvent des vins qui sont vendus avec une valeur ajoutée très limitée. Mais c'est un point qui m'intéresse parce que le modèle coopératif, il est porteur de valeurs que paradoxalement, ceux qui sont dans ce secteur-là n'assument pas. Donc ils font tout pour dissimuler le fait que c'est coopératif. Ce qui est assez amusant, c'est paradoxal, hein, actuellement. Hein, ils font tout, ils ont honte d'être en coopération. Ils ont honte, donc ils font tout. Alors ils masquent, ils mettent domaine, et la référence à la coopération passe au second plan. Ce qui est absolument paradoxal.
Et j'ai juste une question rapide sur la presse professionnelle, en fait, qui n'est pas présente, justement, à part comme source sur le cas du vin. Peut-être que c'était l'occasion aussi de voir s'il y avait des transformations portées par cette presse professionnelle de vin. Alors, et plus sur la question de tout ce qui est presse gastronomique, sur ces journalistes, plus en termes de pensée d'espace, où ils font des blogs, ils font aussi quoi, des ménages, ils font plein de choses. Est-ce qu'il y a aussi, d'une part, au sein de la presse professionnelle, des moyens de piger ou de faire carrière, et aussi au sein de cette presse professionnelle, parce que je pense que ce qui est intéressant dans ces deux ouvrages, c'est qu'on voit ce que la critique fait aux producteurs, en fait. Et donc, dans cette presse professionnelle qui est à destination des producteurs, c'est là aussi où sont transmis un certain nombre de normes et donc de normes critiques. Et donc, la valorisation des chefs ou la stylisation avec les photos, je pense qu'il y a... Ou le fait que maintenant les chefs se mettent en avant, ils sont plus présents, est-ce que c'est un produit de cette transformation du journalisme gastronomique ou inversement, en fait, quoi. Ce lien avec la presse professionnelle comme loupe, on va dire.
Je pense que les deux cas sont très différents. Je te laisse répondre. Hein.
Non, bah, ça, c'est assez rapide parce qu'effectivement, je ne l'ai pas étudié. Il y a quelques journalistes que j'ai interrogés qui travaillaient, qui pigeaient aussi pour la presse professionnelle. Pour ce que je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps, la presse professionnelle a quand même un angle très entrepreneur en gros, et c'est, ça s'adresse aux restaurateurs, et c'est comment faire marcher un business. Donc il y a des tas de rubriques juridiques sur le recrutement, des rubriques économiques sur l'accès au financement. Donc c'est une optique qui est quand même assez différente de l'optique qui est présentée dans la presse grand public, qui est très hédoniste en fait, qui est une optique où toutes les questions un peu problématiques autour les enjeux de santé et autres, ça a mis quand même énormément de temps avant d'apparaître dans la presse, sous la plume de ces journalistes gastronomiques. En fait, c'était toujours traité par les journalistes des rubriques santé, des rubriques économie ou des rubriques agriculture. Et donc la presse grand public a une optique très hédonique grand public. Et la presse professionnelle, effectivement, parle des restaurants. J'ai pas vu, je l'ai pas étudié de manière très systématique, mais de différences de traitement très fondamentales. Pour ce que j'ai vu, les portraits de chefs qui sont faits, c'est quand même très souvent des portraits de chefs connus. Enfin, c'est assez conventionnel en fait dans la façon de traiter les choses. Il ne semble pas qu'il y ait de différence. Et faudrait voir leur parcours des journalistes et leur origine, mais je suis pas certaine qu'il y ait une grosse différence.
Enfin, je te donne deux, trois éléments de réponse.
Et c'est tout petit, par exemple.
Je ne me suis pas intéressé à la presse magazine sur le vin, ou très peu, parce que ça représente peu de choses. C'est la RBF, c'est d'autres magazines qui, de mon point de vue, ne sont pas très intéressants comme objet à étudier. Enfin, on peut les étudier. Et quand je parle de presse professionnelle, j'ai d'autres choses en tête. C'est par exemple la Revue française d'œnologie. Ce sont des organes de professionnels qui s'adressent aux professionnels.
Moi, quand je pense presse professionnelle, c'est presse professionnelle agricole type Gandhi.
Voilà. Oui, c'est ça.
Qui est à destination des vignerons et qui peut transmettre un certain nombre
de choses. Donc il y a ce type de presse que j'ai consulté et qui m'intéresse, qu'on peut étudier, parce que là on a une information et on a des informations sur ce que les professionnels collectivement se diffusent comme savoir.
Ouais,
et puis dans le monde du vin, il y a un magazine dont je peux faire la publicité. J'ai jamais écrit dedans, j'ai pas de lien avec eux. C'est Le Rouge et le Blanc. Donc Le Rouge et le Blanc, c'est un petit magazine, mais ce ne sont pas des professionnels justement. Ce sont des passionnés qui sont indépendants et qui font un petit magazine qui est très très pointu sur le vin. Et là, vous pouvez avoir des informations riches, très précises sur les producteurs, les appellations. Et c'est indépendant de toute forme de groupe d'intérêt. Parce qu'après, le reste de la presse, c'est une presse qui est tout de même soumise à des groupes d'intérêt. Donc, ce qu'on soit, c'est normal, mais... Le Rouge et le Blanc, si vous vous intéressez au vin et que vous voulez avoir un point de vue de spécialiste amateur et indépendant, c'est la revue à lire.
Bon, eh bien,
oui. Julien doit se dépêcher parce qu'il va arriver en retard à l'Élysée.
Et je crois qu'il y avait une dernière question.
Non,
vous la posez.
Oui,
une question.
C'était une question sur l'autonomie de ces critiques, des critiques dans les deux cas par rapport aux espaces de publication. C'est-à-dire, par exemple, dans le guidage des vins, moi j'ai une étudiante qui a travaillé sur le guidage des vins, on voyait bien qu'effectivement il y a les dégustateurs, après il y a des rédacteurs et après il y a les éditeurs qui passent derrière. Et voilà, on fait comme si c'était les critiques qui produisaient les critiques. Mais en fait, les critiques qu'on voit, c'est jamais celles écrites directement par les critiques, enfin elles ont été éditorialisées. Je voulais savoir quel était le poids de l'éditeur dans tout ça,
le guide Hachette,
tous les espaces critiques
que tous les espaces ont des modèles différents, donc il faut les prendre un par un, et il n'y a pas un modèle. En fait, ils sont tous des économies différentes. Par exemple, il y a celui qui s'est appuyé sur l'économie de la sommellerie, un autre va s'appuyer sur un ou deux auteurs, d'autres sur un groupe de, par exemple, le guide de la RVF, il va s'appuyer sur des rédacteurs de la RVF et puis sur des acteurs du monde du vin qui occupent des positions un peu particulières. Voilà, donc à chaque fois, il y a des réseaux et des modèles économiques. Il n'y a pas un modèle rédactionnel non plus type. Le guide Hachette, l'éditeur fait simplement un travail de lissage. Pourquoi ? Parce que comme c'est écrit localement par des acteurs qui ne sont pas des professionnels de la critique, ils écrivent avec plus ou moins de bonheur. Donc il faut lisser tout ça et le rendre un peu homogène. D'ailleurs, avec les sommeliers, c'est un des gros problèmes, parce que les sommeliers ne sont pas des rédacteurs hors pair, bien souvent. Comme je suis enregistré, je vais dire des bêtises sur certains groupes professionnels, mais en règle générale, ce ne sont pas des professionnels de l'écriture. Donc, ils avaient aussi quelques difficultés à mettre en forme ce que les sommeliers pouvaient dire déjà.
Plus globalement, c'était la question de l'autonomie des critiques et de la normalisation que peut-être opère l'instance dans laquelle ils publient.
Je ne me pose pas la question de l'autonomie, parce que comme la critique est dans le monde du vin, la question de l'autonomie, elle est immédiatement dissoute. C'est-à-dire que les critiques, par exemple, vont faire la promotion d'un monde du vin. Le guide achète, c'est un monde, il se définit lui-même comme un guide d'achat. La publicité marchande, c'est la critique. Hein. Là, on parle de critique, mais on peut parler de publicité marchande. Les petits opérateurs, ils ne peuvent pas faire de la pub, ils ne peuvent pas acheter des espaces publicitaires. Donc, il faut qu'ils soient présents dans le guide. Donc, la publicité, elle passe là. C'est donc la publicité. Donc, la question de l'autonomie de jugement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les relations entre les producteurs, la critique, les catégories de public qui sont ciblées, les types de consommateurs, et de voir comment tout ça se positionne. La question de l'autonomie, elle n'est pas, de mon point de vue, ce n'est pas une question, parce que ça supposerait une liberté de jugement d'acteurs qui voudraient porter un jugement. J'ai tendance à la dissoudre.
Plus que d'autres, par exemple, quand même. Parce que si le guide achète, quand il délègue complètement aux comités locaux la rédaction et la sélection, mais dans les guides,
Mais par exemple, vous prenez le guide de Sylvie Augeroy. Sylvie Augeroy, elle fait des portraits. Donc vous allez vous dire, tiens, elle choisit, elle parle de qui elle veut, comme elle veut, et elle fait des portraits parce que ce sont des gens qu'elle aime bien, des vignerons qu'elle aime bien. Elle le présente ainsi. Mais en fait, c'est son monde du vin. Donc il y a des très fortes interdépendances. Elle ne parle pas de n'importe quel vigneron, dans n'importe quelle condition. Elle est aussi organisatrice d'un salon, elle est en relation avec tous ces vignerons-là. Ce sont les acteurs qui appartiennent à son monde, et ils sont en lutte collectivement pour imposer une définition du vin. Donc la question de l'autonomie, je ne la fais pas sur ce bon plan. Je ne cherche pas à savoir si elle est autonome ou pas. Elle est dans des relations. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la trame de relations dans laquelle elle est prise, et qui l'amène à être un acteur jouant un rôle dans la promotion d'une catégorie de vins.
Ouais, moi, c'est une question qui se posait beaucoup de leur part, mais je renvoie peut-être au livre sur ces questions-là, parce qu'effectivement, eux, c'est vraiment une préoccupation de la part des journalistes de se dire, est-ce que je suis libre de choisir où je vais manger? Ça dépend en partie de l'économie du titre. En gros, est-ce qu'on leur donne les moyens de payer leur addition? Auquel cas, ils sont libres. S'ils doivent dépendre des attachés de presse ou des invitations des chefs, ils sont un peu moins libres. Enfin, ils peuvent les solliciter. Donc, il y a tout un tas. Et dans un même journal, ça peut varier selon les moments, selon le type de restaurant. Parfois, on se fait payer des grands restaurants, mais pas les petits. On paye son addition dans les petits. Donc, c'est assez variable. Mais en tout cas, c'est une grosse préoccupation de leur part de se dire dans quelle mesure je suis autonome pour critiquer. Même si dans la pratique, de fait, ils ne critiquent pas très négativement, mais en tout cas, dans l'esprit, c'est un... Et effectivement, c'est complètement différent des guides où c'est pas rédigé... Enfin, où il n'y a pas le travail de rédaction et de choix des restaurants sous le même angle. Donc, pour eux, en tout cas, en interne, c'est la question de la déontologie est une question très, très, très... Et de est-ce que la rédaction leur impose d'aller... Alors après, il y a tout un tas, effectivement, quand c'est un annonceur, on ne peut pas trop en dire de mal. Quand c'est un ami du patron du journal, on ne peut pas trop en dire de mal. Donc il y a tout un tas de paramètres qui modèrent ça. Mais grosso modo, c'est quand même c'est très lié à la dépendance économique, en fait.
Quand je parlais de normalisation, je voulais... Enfin oui, il y a cette question du choix, mais après, il y a aussi la question même des manières d'écrire... est-ce qu'il y a des catégories qu'on les invite à utiliser ou pas? Est-ce que quand on vise un certain public, on leur dit utiliser telle manière d'écrire, éviter ça? Voilà, est-ce qu'il y a une standardisation, une normalisation?
Oui, mais ça se fait beaucoup par la... C'est pas formalisé, en fait. Ça se fait beaucoup par apprentissage. Ils se lisent beaucoup les uns les autres. Donc, ils apprennent en lisant au départ. Quand ils connaissent rien au sujet, ils vont lire les autres et ils vont faire la même chose... Enfin, c'est très basique, et parfois, il y en a une qui me racontait « Non, non, bah, j'ai toujours été libre, elle a fait des études d'histoire de l'art. » Et donc, elle me dit « Mais au début, à chaque fois, je me faisais retoquer mes copies, parce que moi, je faisais des choses très... je partais un peu loin, et en fait, c'est par recadrage successif, mais c'est pas quelque chose qu'elle pouvait vraiment objectiver en disant « Tel mot, il faut l'employer. » C'est pas des consignes, mais en revanche, on va dire « Là, il faut être plus factuel, ou là... » Enfin, ce genre de choses qui sont un peu... Enfin, du journalisme, c'est plutôt les critères d'écriture journalistique assez classiques, d'être factuel, et qui lui étaient reprochés, en fait, parce qu'elle partait trop dans des choses un peu littéraires. Donc ça, c'est assez difficile d'objectiver ce type de transmission et d'apprentissage, parce que c'est très par la pratique et par l'expérience, et donc, hormis en faisant des observations, enfin, en participant à ce genre de choses, par entretien, c'est pas forcément la meilleure méthode pour obtenir ça, parce qu'en tout cas, c'est pas formalisé... comme on pourrait l'imaginer.
Bon, merci beaucoup pour cette discussion très intéressante et pour cette belle séance.